Saturn.
Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
是我, 如果有多张船飞, 你会不会跟我一起走?
The way of the samurai is one of immediacy, and it is best to dash in headlong.
जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो शाम जवां यूं ना चली जाए आज ये शाम जवां यूं ना चली जाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो बोलो तुम हो गए इशारे बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो देखा देखी नजरें दीवानी चुप चुप देखा देखी नजरें दीवानी जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो
réflexion. Voilà, de
c'est ce
fois-ci.
Que nous dit le film aussi.
Mais voilà, donc le film nous dit plein de choses quand même, et en même temps, il a de l'action, comme tu dirais. Donc, en tout cas, un film, à mon avis, à voir et à réfléchir, de toute évidence. Donc, c'est Munich de Steven Spielberg. Il est sorti aujourd'hui sur plein d'écrans. Je pense que vous ne pourrez pas le rater. On écoute un petit peu de musique maintenant.
Mais on ne t'a jamais dit. Un jour à tes côtés, je monterai sur scène au milieu des larcènes. Sous tes faux airs de Pierrot, tes postures écolo et ton amour des mots. Je te toise à petit homme et dans un sangle de voix, tu me diras. Je te toise à petit homme et dans un sangle de voix, tu me diras. Tout est à toi. Dédicace en jouant l'asphyxié devant la ribambelle. Tu t'en fiches. Ton public c'est ton kiff et ça tu le répètes à longueur d'interview. Tu rentres. Un jour à tes côtés, je monterai sur scène au milieu des larcènes. Je voudrais la magie tous les soirs, toute revêtue de noir, électricité radar. À d'autres. Je te toiserai petit homme et dans un sanglot de voix, tu me diras. Je te toiserai petit homme et dans un sanglot de voix, tu me diras. Je te toiserai petit homme et dans un sanglot de voix, tu me diras. Je te toiserai petit homme et dans un sanglot de voix, tu me diras.
Nous écoutions les frères Nubuck, et oui. Alors, un petit rappel maintenant concernant un concours que nous vous proposons de gagner des places pour le Festival du cinéma israélien à Paris, qui se tient au Cinéma des cinéastes. Et pour ça, une seule chose à faire et des plus simples, il suffit de nous appeler. Et on vous offre des places, c'est quand même, c'est sympa, non ?
C'est super.
Ah. Donc, mais toi, t'as pas le droit d'y participer, Nicolas ?
Je crois que je dois participer à des concours de...
Quelle horreur, tu peux pas dire des choses pareilles. Donc, il vous suffit d'appeler, je vous donne le numéro de téléphone, le 01 49 96 65 45. Voilà, vous nous appelez, vous nous dites les films que vous voulez voir et on vous invite, c'est pas mal. Voilà, donc retour sur les sorties de la semaine, hein. On abandonne les festivals. Et un film français de Laurent Cantet. Laurent Cantet, un cinéaste plutôt apprécié, plutôt suivi, qui signe le film Vers le Sud avec Charlotte Rampling. Alors, Vers le Sud, un film sur le tourisme sexuel des femmes un peu âgées qui vont en Afrique ou dans les pays, les pays du Sud, avec
oui,
un grand S majuscule, ouais. Pour trouver des bellâtres mates de peau.
Oui.
Alors, un sujet qui pour moi m'a toujours paru étrange, parce que comment Charlotte Rampling pourrait avoir besoin de voyager pour trouver des hommes à vendre, puisqu'elle est quand même absolument sublime.
Et tu sais que dans le film, il y a une des premières scènes du film où tu as donc un des bellâtres, comme tu dis, qui discute avec l'un des personnages du film, le Brenda, pas Charlotte Rampling. Et il discute avec elle sur la plage. Il y a une espèce de grosse bonne femme qui l'appelle le mec au loin, on sait pas qui c'est. Et la caméra se rapproche, et la grosse bonne femme, c'est Charlotte Rampling.
Non.
Je te jure, elle était toujours aussi belle, mais il y a
un effet.
On la voit comme Charlotte Rampling, mais.
Non, mais elle n'a pas pris un gramme. Non, elle est sublime.
Non, non.
C'est comme si on avait mis Carole Bouquet. Enfin, bon, bref. Malgré cette erreur de casting outrecuidante, à mon goût, je sais que. Donc, Gabi, tu l'as vu ce film. Nicolas, tu reviendras dessus après.
C'est un petit peu rigolo de parler de tourisme sexuel parce qu'en fait, on nous montre vraiment les deux côtés de la médaille, autant justement pour les femmes qui vont là, autant que pour les jeunes hommes qui se font payer, comme quoi tout le monde en retire un petit peu sa satisfaction dans cette situation-là.
Donc, finalement, c'est bien, quoi.
Oui, puis même, je veux dire, dans l'image aussi, l'île Haïti n'est pas montrée toujours ensoleillée ou toujours sombre. Il y a vraiment un nuage gris qui passe sur toutes les images. Il n'y a rien de... Tout est un peu mitigé entre le blanc et le noir. Il n'y a vraiment rien qui est... aucun parti pris, en fait. On nous montre une situation.
Mais c'est vrai que Laurent Cantet, ce n'est pas quelqu'un qui tronçonne les vérités, mais en même temps, il doit quand même avoir un petit avis sur la question.
Oui, c'est sûr que la fin donne quand même une belle philosophie ou quoi que ce soit, mais je veux dire, ça rentre pas en profondeur nécessairement dans l'intériorité des personnages, même si on veut à quelques fois avoir des... Les personnages font des monologues où ils vont parler à la caméra, où on va penser qu'on va avoir... on va pouvoir saisir un petit peu leurs émotions, leurs sentiments, mais ça passe un petit peu à plat, je trouve. On sent pas vraiment le réel besoin qui se dégage de chaque personnage.
Et qu'en est-il de la sensualité qu'on peut imaginer, vu le sujet, non? Il n'y a pas grand-chose de ce côté-là?
Non, mais j'ai trouvé ça un film très, très neutre. En même temps, il n'y a aucune musique pour agrémenter ce petit côté-là.
Si, il y a des petites musiques, oui, je ne m'en rappelle pas, mais...
Très peu, quand même.
C'est
très peu, c'est rien de langoureux, c'est rien de sensuel, c'est rien d'exotique.
Donc c'est pas excitant, il n'y a pas d'avis, donc c'est peut-être pas... Toi, ça t'a pas emballé, quoi.
Non, c'est neutre, en fait. Ça donne vraiment une opinion sur les deux côtés de la chose.
Petit mode d'emploi, quoi, le terrorisme sexuel. Comment ça se passe, comment on y fait pour y aller. En gros, il donne le mode d'emploi, quoi.
Puis,
c'était dans l'IT des années 70-80, et aujourd'hui, c'est devenu totalement un peu l'anarchie.
Nicolas, toi qui connais bien IT, on ne te demandera pas pourquoi.
Oui. Je connais tous les endroits où il faut dormir.
Ouais.
Mais c'est pas mal comme film. Je trouve que c'est un peu un film de transformation, avec d'un côté, voilà, Charlotte Rampling, qui est elle, qui connaît bien, en fait, c'est une sorte de... Un peu comme un club Mickey, donc pour des femmes un petit peu âgées qui trouvent leur...
Leur Mickey.
Leur Mickey.
Non, mais en même temps, il y a plein de touristes qui ont l'air à pas être dérangés de ça. Dans l'hôtel, il
oui.
y a plein d'autres...
Et ça, c'est intéressant, parce que moi, ça m'a fait penser, il y a une espèce de banalisation de la prostitution. Mm-hmm. C'est un petit peu finalement comme dans le Paris-Dakar. Aucun Français se permettrait de ce que faire les gens qui font le Dakar en France. Et bien là, c'est pareil, c'est les Américaines un peu puritaines qui ont finalement honte de payer pour des mecs, puisqu'elles ont perdu un peu leur capital séduction. Enfin, c'est le postulat du scénario, je ne me permets pas de juger le physique des actrices, et qui partent là-bas pour combler ce manque, toute cette affection. Et il y en a une qui part sur les gens pour retrouver son grand amour, un beau black qu'elle avait croisé plus tôt. Et en fait, il y a un peu une transformation de ce personnage qui devient, au début, donc elle est innocente et compagnie, elle devient véritablement consommatrice. Elle use de ses devises, de son argent, et c'est un peu une banalisation, que j'ai observé en vacances en Afrique, du pouvoir que certains occidentaux ont en Afrique, et comment ils jouissent finalement du pouvoir, ils deviennent autoritaires, ils savent ce qu'ils veulent, et finalement ils deviennent un peu comme des propriétaires. Simplement, il y a un côté un peu marxiste, mais pas très lourd non plus dans le film. Avec le basculement du personnage de Brenda, qui est plutôt surprenant. Et moi, je trouvais le film plutôt réussi. Et même dans les rapports entre hommes et femmes, c'est assez subtil, le côté, c'est la nana qui paye, qui porte vraiment la culotte, et qui sait ce qu'elle veut. Et les rapports se trouvaient plus cruels qu'on aurait pu le penser, un peu maternel.
Donc, Quentin nous signe encore une grande fable sur les rapports sociaux.
Il y a de ça, dans les rapports nord-sud.
Hommes, femmes, noirs, blancs, vieux, jeunes...
Vive les contrastes, donc.
C'est pas mal du tout.
Donc ça, c'était Vers le Sud de Laurent Cantet, donc Nicolas et Gabi nous le recommandent plutôt. Et maintenant, on va parler du film Des histoires comme les autres, un film qui regroupe plusieurs courts-métrages.
Des histoires pas comme les autres, justement.
Oh, zut, j'ai oublié le pas. Des histoires pas comme les autres, pardon. Excusez-moi. C'est un film qui regroupe donc plusieurs films, des courts-métrages...
De Paul Driessen.
De Paul Driessen, donc un Belge, et c'est de l'animation. Alors, je ne vais pas raconter, il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter, vu que chaque court-métrage a son histoire, j'imagine.
Oui.
Et Julien, ça t'a plutôt enchanté,
ça m'a plutôt plu. Il faut faire attention, ce n'est pas pour les enfants, hein, c'est vraiment des court-métrages pour adultes. Donc il faut...
C'est bizarre, les dessinateurs belges, les films d'animation belges ou hollandais sont quand même plutôt pour adultes, non, en général.
Alors, je ne pourrais pas faire de généralité.
D'accord,
là, c'est
vas-y, parle-nous juste de celui-ci.
C'est une possibilité totale de ma part. C'est juste que ce... recueil de courts-métrages et pour les adultes plutôt, même si voilà, il y a une espèce de petite poésie enfantine. Ce que j'ai trouvé ça joli, voilà, joli, ça passe, pas franchement renversant, mais pas mal. Mais surtout ce que
en une heure, c'est agréable, pas plus en fait.
Oui.
Une heure, c'est ça.
On peut dire
ça. Mais alors ça va dans quelle direction ?
Agréable. Ce qui est intéressant, c'est surtout ces courts-métrages avec des split screens, c'est-à-dire qui se déroulent sur deux histoires qui se déroulent à l'écran en même temps, des fois 3, 4.
Côte à côte.
Côte à côte, oui. Et là, il manie vraiment le sens du récit multiple à la perfection. Et je trouve ça vraiment très joli, très poétique, notamment celle où un petit garçon se voit en train de rêver. Enfin, il y a d'un côté ce qu'il vit et d'un côté ce qu'il rêve, ce qu'il s'imagine. D'accord. Et les deux se rejoignent un peu tragiquement. Et ce court-métrage-là est vraiment très très joli. Après, c'est plutôt une découverte, quoi. C'est plutôt pour ceux qui sont curieux de ce style-là. C'est des traits assez fins, vibrant.
Il y a tout un jeu qui est fait avec les lignes, les formes, tout ce mélange ensemble, tout ce... Une ligne peut devenir un personnage, en fait. Il y a vraiment un jeu qui...
Ça tend un peu vers l'abstraction ou c'est...
Non, pas
ça. Oui, en même temps, c'est un peu le minimum que puisse faire l'animation, ouais. Quoi. La ligne qui se transforme en un personnage, c'est Alinéa. C'était Alinéa, déjà.
C'est vraiment quelque chose de très, très simple là, qui va faire naître le récit, en fait. Moi, j'ai vu ça comme ça, là, un petit peu.
Oui, moi aussi, j'ai vu ça comme ça, mais pas avec autant peut-être d'émerveillement, hein, voilà.
C'est farfelu, il y a un petit humour noir. Ouais.
En fait, tu dis ça, c'est parce que c'est produit par l'Office national du Canada,
oh, non,
c'est ça?
Non.
Ça y est, ça balance.
C'est vrai que j'ai été curieuse pour ça, d'aller voir, mais...
Oui, non, c'est ça.
Bon, ne vous battez pas, s'il vous plaît. Donc, ça, c'était pour des histoires pas comme les autres. Un film de Paul Drissen avec plein de petites histoires, donc plutôt recommandé. Et maintenant, Julien, je te retrouve pour parler d'un film que moi, j'ai beaucoup aimé. Pour une fois que j'ai vu un film dans cette émission. Ça s'appelle The King et c'est réalisé par James Marsh. Alors, il n'y avait aucun film de ce monsieur qui n'était pas paru en France avant. Donc, c'est son premier.
Je crois qu'ils ont même sorti directement en vidéo, je crois. J'ai essayé de m'en procurer un, c'était impossible.
Je crois qu'il a aussi été acteur, en fait, ce monsieur.
Je suis pas sûr.
J'ai regardé ça dans sa bio, alors peut-être qu'on m'a bio erroné. Et donc, bref, c'est son premier long métrage à sortir en France. C'est interprété par Gabriel Garcia Bernal et John Hurt.
William Hurt, pardon.
Oh là là. Je les confonds toujours tous les deux. Et donc, joli casting. Et donc, l'histoire en deux mots, donc c'est l'histoire d'Elvis, interprétée par Gabriel Garcia Bernal, qui sort du service militaire, qui arrive dans un village aux États-Unis. Il recherche son père qui ne l'a pas élevé. Donc on ne sait pas trop la relation avec ce père qu'il recherche. Il le trouve en la personne d'un prêtre très intégré, très respecté, dans une petite communauté, enfin quelqu'un de médiatique, de connu, qui a une famille, une fille, une femme, enfin bon, bien installé, hein, très américain, tout ça, les suburbs bien arborés, joliment décorés, tout ça, tout ça baigne dans la mélasse, je ne sais pas.
C'est même un Reborn Christian, je crois.
Voilà, c'est ça.
En filigrane, on sent que c'est un Reborn Christian.
Voilà. Il y a aussi cette notion-là.
Ah, comme George Bush.
Chut.
Mais on a le droit de dire le nom. Hein.
C'est très important. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans le film-là. Dans ce film-là, c'est que ça reste un peu à mi-hauteur. On sent que c'est là, mais c'est jamais vraiment ouvert. Mais on sent que c'est le sujet du film. Et c'est ce qui est étonnant dans ce film-là, c'est qu'il avance avec un masque de nonchalance qu'il porte constamment. On ne sait pas très bien où il veut en venir. Ça a un rythme très, très hypnotisant, très doux, de très belles images. Surtout, on est captivé par Gael Garcia Bernal qui a une espèce de visage un peu enfantin.
Très dur, en même temps très fermé.
C'est ce que j'allais dire, oui, enfantin. Il a aussi sa petite taille quand même. Il ne doit pas faire plus d'1m50.
Méchant, ça.
Oui, non, mais ça rajoute au côté petit bonhomme sympathique et effectivement ce regard dur et ce passé de Marines. Quoi. Voilà, il vient juste de sortir de l'armée, donc évidemment.
Et comment il a pu entrer chez les Marines s'il fait 1m50?
Ah bah, je sais pas,
il cherche. Il est très fort.
Il cherche des petits bonshommes, peut-être. Oui, il devait avoir quelque chose comme ça. George Bush, encore, je pense, une référence. Et il avance comme ça, on sait pas très bien où il va en venir. Et au fur et à mesure que se déroule une tragédie, parce que c'est vraiment une tragédie.
Bah, il faut dire d'abord que ce père, donc marié, tout ça, refuse complètement le contact avec ce fils qui vient lui demander la reconnaissance.
C'est ça qui est quand même assez étonnant.
Ça déclenche tout ça.
C'est qu'il refuse le contact, mais en même temps, il lui confirme que c'est lui le père.
Ouais.
Donc il lui dit oui, mais je ne veux pas être de toi dans ma vie. Et donc ça va créer une espèce de nœud, c'est pas très bien.
C'est une violence absolue, enfin ça c'est oui. quand même le
c'est une violence, mais en même temps c'est assez clair, enfin je sais pas, c'est compréhensible quoi, il y a pas de mystère. Et c'est pareil, on avance au fur et à mesure de la tragédie, et le masque qu'avait Gaël Garcia Bernal devient un rempart à toute morale. Enfin c'est comme ça que je l'ai vu, c'est qu'on sait pas très bien si c'est une vraie vengeance, s'il est fou. S'il sait pas se contrôler, si on sait pas.
Oui, parce que alors, l'action avance et les drames se produisent au fur et à mesure, dont on ne sait pas vraiment s'ils sont effectivement
voulus, fomentés,
créés toutes pièces ou accidentels.
Et c'est là la base, à mon avis, du film, c'est que comme on ne peut pas appliquer de condamnation sur lui, on ne sait pas s'il est fou ou non, en même temps, on ne sait pas ce que la religion va dire de lui. Et c'est ce vers quoi tend le film, c'est que peut faire la religion, que va dire la religion sur ça. Il y a un regard trouble qui est jeté à travers ce parallèle qui est vraiment, vraiment magnifique, quoi, vraiment intéressant. Et là également la référence à Elvis, la rockstar des années 50,
King.
The King, oui. C'est qu'évidemment il luttait lui-même contre les mœurs conservateurs de ces années-là, mais il a été sous la coupe du colonel qui était un bigot... tenter quoi, voilà.
Ah, j'avais pas pensé à ce parallèle là, mais effectivement il saute aux yeux maintenant que tu en parles.
Oui, c'est vraiment le film est très astucieux, très malin et à voir, à découvrir.
Ouais, je pense aussi. Donc c'est The King de James March. Et maintenant, avant de parler du film de la semaine, qui est, je ne résiste pas, j'adore le titre, Kekexili, la patrouille sauvage, voilà. Avant d'en parler, je vous rappelle notre magnifique concours qui vous fait gagner des places quand même pour le Festival du cinéma israélien. Alors, appelez-nous, il y a des places pour vous au 01 49 96 65 45. Pour ceux qui ont raté le début de l'émission, voilà, il y a un festival et selon les films que vous voulez voir, on vous invite, on vous offre des places, tout simplement. Il suffit de nous appeler pour ça. Et maintenant, donc, on va parler du film de la semaine.
Le film de la semaine.
Donc, je le redis, Kekexili, la patrouille sauvage. Julien, tu es le seul à l'avoir vu aujourd'hui, mais on a quand même mis un film de la semaine parce que ça t'a complètement bouleversé, d'après ce que j'ai compris.
Oui, je trouve le film assez magnifique. C'est
un film chinois.
Un film chinois d'une grande beauté, oui. De Liu Xuan, qui raconte en fait un journaliste chinois qui vient de Pékin, qui va dans les régions reculées de la Chine, près du Tibet, suivre des gardes forestiers, enfin on peut pas dire des gardes forestiers, mais voilà, une poignée de personnes volontaires, bénévoles, qui vont traquer les braconniers d'antilopes du Tibet qui sont dramatiquement tombés à genre 3000, un truc comme ça.
Il y en avait beaucoup plus avant, c'est ça?
Il y en avait beaucoup plus avant, je me rappelle le nombre exact, mais je pense que c'est 300 000.
Oui, donc là, on peut dire que ça a été dramatiquement réduit.
Dramatiquement réduit. Alors, à entendre le résumé, on se dit...
C'est pas le sujet du film, le côté bibifoque, non?
Ben voilà, à entendre le résumé, on se dit c'est une histoire financée par la branche Asie de Greenpeace. Un truc...
Sauvons les antilopes.
Voilà, une histoire écologique un peu con. Mais
fait, rassure-nous.
Très rapidement, la traque garde braconnier antilope. Cette ligne de chasse se transforme en un duel entre les hommes et le désert de Kekexili. C'est là que d'où le titre, c'est cette opposition de l'homme contre la nature, ce duel qui rappelle évidemment le western. Dans la presse, on parle beaucoup à propos de ce film-là de western chinois. De eastern, presque, oui. Peut-être pas parce qu'il y a des chevaux, pas parce qu'il y a des flingues. Non, c'est pour ce duel aride dans le désert avec des plans qui rappellent Léon et Peking-Pah. Non, vraiment, c'est même un peu trop fort au début, c'est vraiment trop maniéré. Et au fur et à mesure, c'est vraiment une course des hommes pour... Plus pour chasser, mais pour survivre, pour se dire on va survivre au désert, faut faire ça, faut partir maintenant parce que sinon on va mourir dans 2 jours. Il y a aussi cette notion d'attente de la mort. On sait que maintenant, si on fait pas ça, dans 3 jours on est mort. Je trouve ça terrible.
C'est quelque chose un peu d'aussi de métaphysique. Ça rappelle presque des westerns à la Monty Hellman pour le coup, plutôt avec le...
Oui. Non. Oui, oui.
Ce que tu dis en tout cas, parce que moi j'ai pas vu le film. Mais...
Oui, il y a de ça.
Quelque chose de plus transcendant que juste le scénario, enfin que juste la base de départ, non?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On perd complètement le fil des braconniers, c'est plus du tout important. Même à la fin, ça devient un espèce de pied de nez, parce qu'on se rend compte que les chasseurs sont obligés de vendre de la peau d'antilope pour pouvoir survivre même, pour pouvoir se financer. Donc on arrive à une espèce de cycle complètement absurde sur des gens qui veulent sauver la nature, en même temps sont obligés un peu de s'en servir, et en même temps la nature leur fait pas de cadeaux, et c'est vraiment palpitant, c'est beau, les paysages, ça fait bête de dire ça pour un film, parce que c'est un paysage, c'est du sable.
Non, mais c'est important les paysages
mais
au
écoute,
cinéma.
Ça fait des images sublimes.
Non, mais là ce qui est important c'est que le paysage... est constamment un danger. Tu sais que c'est beau, mais tu sais que ça va les tuer.
Donc le paysage est un personnage.
Oui, le désert en lui-même est un personnage.
Ça rappelle aussi Jerry. Donc on y est.
Également.
Ce sont les références.
Oui, également.
Donc tu nous le recommandes chaudement et on te croit et on va y aller. C'est Kekexili, la patrouille sauvage de Lu Chuan.
Je voulais juste rajouter quelque chose. Je viens d'y repenser. C'est que, en plus de ça, bonus. Cerise sur le gâteau, c'est un peu politique. Oui, non, mais voilà.
Ça se proche du Tibet, c'est pour ça.
Exactement, c'est quelque part, ça parle de la politique de la Chine qui consiste à s'occuper essentiellement des grands centres et à laisser de côté le monde rural, mais de côté carrément à l'abandon, quoi. Que ces gens-là sauvent les antilopes sans argent. C'est quand même aberrant.
Oui, ça rend la situation d'autant plus folle.
Voilà, c'est une critique.
Et ils préfèrent les pandas. c'est vrai, en plus.
Vilain garçon.
Non, mais c'est vrai, ils ont fait des pandas à Taïwan, je crois, ou à Singapour. Non, à...
Enfin, renseigne-toi, s'il te plaît, ne lance pas de fausses infos dans cette émission.
Ah, parce que...
Donc, non, tu nous détends complètement du sujet. Donc, nous étions dans Kekexili, la patrouille sauvage. Et donc, on vous le recommande chaudement, c'est le film de la semaine. Dans Extérieur Nuit, alors le chef-d'œuvre que nous venons d'écouter est signé Nicolas.
Non, c'est DMX Crew avec 17 Ways to Break Your Heart qui est ressorti chez Reflex l'an dernier.
Voilà, mais heureusement que tu es là pour nous amener des disques comme ça, sinon on ne les écouterait pas. Donc merci.
Mais il
Nicolas.
Est dans la playlist, attention.
Il est dans la playlist, c'est vrai, je dis des méchancetés. Donc retour sur l'actualité ciné avec La Terre abandonnée, un film sri-lankais. C'est rare, donc parlons-en. Le réalisateur s'appelle Vimukti Jayasundara, c'est ça?
C'est ça.
Oh là là, j'ai eu chaud. Donc, La Terre abandonnée, vous êtes plusieurs à l'avoir vue. Marion, peux-tu nous en parler un petit peu malgré tes problèmes de voix?
Peut-être, c'est absolument pas un problème. Peut-être dire que le film a eu la caméra d'or cette année à Cannes.
Oui, ça me semble important, effectivement.
Première en date July. Donc là, on passe carrément à autre chose. Mais commencez par dire que c'est un film sans récit, en fait. Donc c'est 1h30 de contemplation. On est dans un Sri Lanka indéterminé, tant géographiquement que historiquement, on se balade comme ça dans ce qui semblerait être un petit village. La terre est aride, très peu de végétation, l'image est parfaite. Esthétiquement, c'est vraiment très très beau, beaucoup de plans larges, des plans séquences assez longs, des personnages comme ça clairsemés. Le film ne raconte rien, il montre juste la vie.
De dire ça, ça donne jamais envie aux gens.
Non, ça donne pas. Mais j'ai pas aimé ce film. Ah. J'ai pas envie de le défendre. Donc je commence comme ça. C'est peut-être un peu aride justement. Non, ce qui m'a posé problème, c'est que le film est vraiment très très beau, plastiquement parfait, c'est superbe. Mais ça prône une espèce de démission, une humanité complètement résignée. C'est-à-dire que les gens sont triste, accablé ou alors vicieux. Il y a un vieillard qui attend adossé à un arbre toute la journée, une petite fille qui vient l'espionner derrière du bois mort, un militaire qui enlève la femme adultère pour des scènes non pas vraiment crues, mais il y a des scènes de sexe, beaucoup de scènes de sexe, il y a beaucoup de chose assez de référence assez sexuelle et une espèce
et
comme ça,
ça on dresse le portrait d'une humanité un peu triste, c'est ça que tu
un peu triste aussi, et les gens sont vraiment résignés. On sent que tout ce côté très esthétisant porte des choses très très graves qui ne sont pas dites, qui auraient pu être exportées par une trame narrative un peu plus fouillée, mais là c'est vraiment un film d'ambiance, un film de cadre, un film de décor, où les personnages n'interviennent pas. On a vraiment l'impression qu'ils sont victimes justement de cette terre abandonnée où il ne se passe rien, où tout est stérile. Et je ne raconterai pas la fin, mais c'est vraiment la sentence, quoi. Et tout suit son cours comme ça, et ça nous a un peu à l'usure. On a l'impression d'entrer dans un monde assez sordide. Alors que l'affiche, même le décor, la lumière, le travail photographique annonce tout autre chose. Et moi, j'ai eu un problème avec ça. Alors, j'ai peut-être très, très mal lu le film.
Donc, une beauté figée qui amène complètement la morbidité.
Ce oui,
qui
est, c'est vraiment
ce qui
morbide.
Se tient très bien comme raisonnement. Julien, toi, tu es resté au morbide ou tu es entré quelque part ailleurs?
Non, je suis resté un peu à l'extérieur du film. C'est dommage. Peut-être pour la caméra d'or, je tiens à le préciser. Enfin, c'est un bruit de couloir assez persistant que Kiarostami a quand même fait le forcing pour que, contre tous les autres jurés, pour que ce film-là ait la caméra d'or. On comprend, c'est un peu son cinéma à lui, quoi.
Encore que récemment, il a essayé de directions un peu différentes. Enfin, je veux dire, il a pas un style uniquement
oui,
monolithique.
Oui, on sent qu'il aime, voilà, qu'il connaît une filiation, on peut dire.
D'accord.
Et je trouve le film effectivement très beau, mais très hermétique dans le sens où pour moi le principal problème, c'est qu'on sent qu'il y a l'arrière-plan de la guerre civile au Sri Lanka. On sent que on sent pointer des chars, les problèmes de relations entre les gens dans des pays reculés, mais ce qui m'a vraiment gêné, c'est cet espace dans le récit qui fait qu'on perd le fil de qui est qui fait quoi. Il n'y a aucun travail sur la mémoire dans le récit. C'est-à-dire que on voit un personnage, on a presque oublié qu'il était là quelques temps auparavant, on ne sait même plus ce qu'il a fait. On va sur un autre personnage, on ne sait pas très bien où on en est. Et c'est assez gênant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a rebuté. Je ne savais plus très bien ce qui se passait. Alors, peut-être ce qu'il a sauvé à mes yeux, c'est les scènes de sexe. Parce que bon, voilà, il y en a un peu.
Il y avait au moins quelque chose d'intéressant.
C'est plutôt pas mal, mais sinon, vraiment, je n'ai pas très bien compris.
Les personnages ne sont pas écrits.
Parce que
vous décrivez,
écrits,
ça a l'air d'être
ouais.
un peu une série de succession de photographies
oui,
un peu glauque, Nicolas.
Un peu chiant d'abord, parce que moi, au début, sincèrement, je me suis fait chier à mourir comme jamais, parce que c'est extrêmement lent. Voilà, Lana qui se lève, qui ouvre les yeux, qui se lève, qui va faire pipi.
C'est une ablution de 10 minutes.
Mais bizarrement, je suis complètement rentré dans le trip au bout d'une heure, et j'ai vraiment aimé ce film. Parce qu'effectivement, tu me dis que c'est un film qui ne se passe rien, mais moi je pense que c'est un film sur le rien, sur le vide, sur l'absence de tout.
Cela excusant tout.
Et d'abord, t'as
un mauvais film étant un film sur le mauvais.
C'est sur une absence, un vide, mais vraiment métaphysique, qui plombe complètement les personnages, et surtout dans cette espèce de step qui est comme une sorte de jardin d'Éden où ils peuvent tout se permettre, puisque personne ne les regardera, personne ne les jugera. Donc le mec trompe sa femme, la nana trompe son mec. Ils peuvent éventuellement faire pire, et le film, il y a des éruptions de violence qui sont pas mal. Et non, j'ai trouvé que j'étais séduit par le film. C'est un peu comme un disque, voilà, Libé parlait d'ambiante, comme un disque Dino, qui a l'air un petit peu ennuyeux, mais finalement, il nous reste un souvenir, une véritable impression, comme un lieu qu'on aurait visité. Non, j'ai sincèrement apprécié ce film.
Merci Nicolas, écoute, la boucle est bouclée, revirement complet. Donc un film qui partage un petit peu les opinions. On vous laissera juger sur La Terre abandonnée, je ne redirai pas le nom du réalisateur, je n'ai pas envie d'être ridicule. C'est Sri Lankais. Et maintenant un film français, pour le coup, La Trahison de Philippe Faucon. Alors ça n'a pas complètement emballé Julien, mais ça me semble important qu'on l'évoque même brièvement, parce que c'est un film qui traite de la guerre d'Algérie, donc c'est pas un sujet qu'on traite beaucoup en France dans nos films, donc pour une fois que ça arrive, Philippe Faucon étant pas non plus le pire des réalisateurs, ça a quand même de quoi susciter de l'intérêt, non ?
On traite pas beaucoup, mais tout de même, j'ai lu dans Libé aujourd'hui qu'il y avait plus de 50 films qui ont été faits sur le sujet. Donc.
Mais quels sont-ils ? Parce qu'on peut en citer 5 facilement, mais après, ils sont passés. Si c'est des films télé que personne n'a vu.
Moi, je cite Libé, hein, je peux pas citer ce qu'ils savent.
Ah oui, mais c'est facile donc, de recenser, mais après.
Non, si on peut même plus faire confiance à Libération, n'importe quoi.
Qu'en as-tu pensé, toi, du film ?
Voilà, le film fait effectivement un tabac parce que, dans la presse, en tout cas, on en parle beaucoup parce que c'est un film sur la guerre d'Algérie. On a l'impression de voir en ce film-là une révélation et un retour du cinéma politique en France. C'est un film par rapport à tous les films américains qui sont en ce moment sur la politique actuelle, un film sur la guerre d'Algérie d'avant. Je trouve ça un peu léger.
Oui, il n'y a pas de quoi non plus crier.
Oui, voilà, c'est pas. Le film est. Ce qui m'étonne le plus, c'est que le film est assez pauvre. C'est la chronique d'une petite faction dirigée par un lieutenant qui est joué par Vincent Martinez.
Qu'on retrouve, on l'avait perdu de vue celui-là.
Ah, je ne l'avais jamais trouvé, moi.
Il a joué dans plusieurs films. C'est L'école de la chair.
Ah oui,
je le jure.
C'est vrai, c'est un acteur, en fait.
C'est le frère d'Olivier Martinez, oui.
D'accord.
Je préfère Vincent.
Je l'avais pas remarqué avant.
Si, il a fait plusieurs films, quelques films, pas beaucoup.
Bon, je l'avais pas remarqué avant. Et dans ce film-là, donc, il est le chef d'une patrouille qui contient 3-4 maghrébins. Et ils vont comme ça au quotidien, on va les suivre au quotidien dans les fouilles, les embrouilles avec les locaux, tout ça. Et c'est sur le thème de la chronique, normalement on sent venir le nœud du problème, c'est, comme le titre l'indique, la trahison d'un des membres. Voilà. Alors comme le titre l'indique, on sait ce qui va se passer à la fin, on voit à peu près ce qui va arriver, mais c'est très réaliste, donc il n'y a pas de grandes effusions, il n'y a pas de dramatisation de la chose, ça reste très réaliste et finalement très plat. C'est pas très tendu comme film, il n'y a pas beaucoup de suspense, c'est vraiment plat, c'est moche. Je suis désolé, hein, mais c'est vraiment moche comme film. Et comparé à tout ce que fait le cinéma américain comme effort pour séduire, je trouve que ce film est assez. C'est un peu du foutage de gueule, quoi.
Mais l'idée, c'est quand même pas forcément de séduire. Il peut essayer d'avoir un propos par rapport à ça, ou si tu actualises le propos, si tu essaies de comprendre ce film aujourd'hui, est-ce que ça a un intérêt ?
Voilà, le propos de dire que, effectivement, la position des Maghrébins qui étaient sous le service militaire français n'était pas claire. Et qu'ils ont eu, eux, des problèmes, et que peut-être la France aussi les a trahis. Je trouve que le discours est certes d'actualité, mais il pourrait aller plus loin, quoi. Ouais. Tant qu'à faire, si on fait un film, on essaie de creuser la chose, on essaie de mettre en scène de façon forte pour que ça reste. Et je trouve que là, il n'y a pas du tout ça. Et c'est un vrai regret pour moi. Je voudrais pas faire un grand drame, ça sert à rien non plus de faire ça, mais... Voilà, creuser quelque chose.
Donc c'est un film un peu limité, par exemple, pour dire ça comme ça.
Je trouve, ouais.
D'accord, donc La Trahison de Philippe Faucon. Et maintenant, nous allons faire un petit retour dans le passé avec Grégoire. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time, back into time. Spaceship, identify yourself, you're being tracked. Alors maintenant, nous allons faire un flashback sur Samuel Fuller. Et pourquoi ? Parce que sort actuellement, je fais la réponse.
cette semaine.
Alors, ressort cette semaine à l'Action Christine Odéon, le film Choc Corridor, qui est quand même,
peut-être son film le plus connu, en tout cas, oui, peut-être le plus connu. Peut-être pour Samuel Fuller, je pense que la meilleure façon de commencer à faire connaissance avec le bonhomme, parce que c'est un grand réalisateur américain, mais parfois méconnu, c'est d'écouter l'extrait d'un film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou, en 1965, dans lequel il fait jouer Samuel Fuller.
Vous avez l'air seul.
What did he say?
You're alone. C'est un Américain, il parle pas français.
Oui, il s'appelle. Qu'est-ce qu'il fait?
Who are you? What are you doing?
I'm an American film director. My name is Samuel Fuller. I'm here to make a picture in Paris called Flowers of Evil.
C'est Monsieur Samuel Fuller. C'est un Américain, c'est un producteur de cinéma. Il est là pour faire les fleurs du mal.
Pour le faire, c'est bien. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
He says he wants to know exactly what his movie is.
Oh. Well, a film is like a battleground.
C'est comme une bataille, un film.
Yes. Love.
L'amour.
Hate.
La haine.
Action.
L'action.
Violence.
La violence.
Death.
Et la mort.
In one word, emotions.
En un seul mot, c'est l'émotion.
Voilà, en un seul mot, c'est l'émotion, mais avec toute la palette des émotions, puisque ça va quand même de l'amour à la mort, en passant par la violence qui est un des thèmes que Samuel Fuller exploitera dans quasiment tous ses films. Samuel Fuller a un parcours assez éclectique, je dois dire. Il a commencé comme dans le journalisme, pas comme journaliste, il a commencé comme grouillot de rédaction, c'est-à-dire qu'il dormait quasiment dans le journal, il faisait pas les photocopies parce qu'il y a pas de photocopieuse, mais voilà, passer les cafés et les copies d'articles. Il a commencé ça vers 14 ans et il a rapidement gravi l'échelle de ce monde. À 17 ans, il était responsable de la rubrique faits divers d'un journal de Londres. Donc à 17 ans, il allait couvrir les meurtres, les noyades, etc. Et ça l'a beaucoup marqué. Et il a garder de ça le sens de l'histoire et le sens d'une histoire forte. Il racontait souvent que voilà, il lui faut une phrase, trois mots pour lancer le lecteur ou le spectateur, et après seulement, s'il est intéressé, il va continuer. Après ça, il a été à la guerre quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Il s'est engagé dans The Big Red One, donc la première division d'infanterie américaine. Il a fait quasiment toute la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé en Amérique du Nord, le débarquement en Sicile, il a fait le débarquement en France, la campagne d'Allemagne, jusqu'en Tchécoslovaquie, et là il est arrivé dans les camps, avec sa division, il a libéré des camps, et il a fait partie de ceux qui, le premier, ont filmé des images des camps, parce qu'il avait une caméra qu'on lui avait envoyée, et il filmait donc en 8 mm, je suppose, couleur. Ça fait un des rares à avoir eu des images couleur de la libération des camps, et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. J'y reviendrai un petit peu plus tard, puisqu'il a fait un film, un de ses derniers chefs-d'œuvre, qui s'appelle The Big Red One, qui raconte justement toute cette vision de la guerre.
Oui, de manière très humaniste, d'ailleurs. C'est très, très touchante.
Et sa troisième activité, c'est d'abord écrivain puis scénariste pour Hollywood, ce qui va l'amener au début des années 50 à commencer à réaliser et à raconter des histoires pour le cinéma, avec son premier film qui s'appellera « J'ai tué Jesse James », et donc c'est un western, un film de genre, mais il prend l'aspect inverse. En général, on regarde quand même les westerns, c'est quand même des héros. Lui, il prend celui qui a tué Jesse James, en plus dans le dos, il fait un film sur cet homme. Samuel Fuller a été reconnu en France essentiellement par les éloges de Jean-Luc Godard au moment où il était critique, mais il a eu une réputation assez difficile en France comme aux États-Unis, parce que il était taxé à la fois d'anticommunisme assez violent, notamment par ses films. Ses films étaient essentiellement des films de série B, donc on sait que la série B à l'époque, c'était des films de genre, souvent dans la guerre froide, à tendance anticommuniste, que ce soit des films de science-fiction où les aliens représentaient les communismes ou autres. Et il a longtemps été décrié là-dessus, sur une violence, un anarchisme, un anticommunisme qui est sans doute très exagéré. D'ailleurs, il dit que s'il a refusé que le club des 10, donc ceux qui ont été ensuite chassés par McCarthy, se réunissent chez lui, il disait c'est parce que moi je me sentais beaucoup plus plus à gauche qu'eux. Bon, c'est aussi un peu une idée du personnage qui parle beaucoup de lui, qui sait raconter des histoires.
C'est paradoxal aussi.
Voilà, donc ces films, c'est donc essentiellement des films de genre tout au long de sa carrière, de série B, donc des westerns, j'ai dit. Il y a eu aussi Run of the Arrow, je ne me souviens plus du titre français, et surtout 40 Guns, qui est aussi assez connu.
Qui est un chef-d'œuvre absolu.
Un de ses chefs-d'œuvre, parce que moi, j'aime beaucoup les films de Fuller, où le rôle principal dans un western est tenu par une femme certes assez masculine dans le film.
Un peu vieillissante aussi.
Un peu vieillissante, mais c'est quelque chose à remarquer. Il a fait beaucoup de films de guerre, où il a raconté sa vision de la guerre, il portait le film de guerre au front, il montrait le front à sans concession, parfois de façon très violente. Il montre dans un de ses premiers films, Steel Helmet, J'ai vécu l'enfer de Corée, il montre un soldat qui exécute un prisonnier de guerre. Voilà, et il dit, c'est comme ça que ça se passait. Et jusqu'à The Big Red One en 80, qui est donc son dernier chef-d'œuvre, puisqu'après il ne tournera plus à Hollywood, il viendra en France faire des films souvent fauchés, et qui montre la guerre aussi, une scène de débarquement qui est terrible et qui vous montre qu'en fait, s'il montre la violence, c'est quand même par profond dégoût de la guerre et de cette violence. Il a fait aussi donc des films d'espionnage, des films noirs, dont The Naked Kiss qu'il a fait juste après Shock Corridor, qui est moi mon film préféré de lui, mais qui a complètement ruiné sa carrière parce que ça a été un échec et il n'a pas pu tourner après. Donc Shock Corridor, le film qui ressort aujourd'hui, a été tourné en 63. C'est un film aussi complètement fauché, 12 jours de tournage seulement. Mais quand même, il a un grand chef opérateur, il a Stanley Cortez, c'est le chef opérateur notamment de La Nuit du Chasseur ou La Splendeur d'Anderson. Donc même avec peu d'argent, il réussit à faire des images très composé, avec beaucoup de contrastes qui accentuent l'atmosphère du film. Parce que l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un journaliste qui est très ambitieux, qui veut découvrir le coupable d'un meurtre qui a lieu dans un asile. Et pour
donc
cela,
il va s'interner lui-même.
Voilà, hein. Il va s'interner lui-même, il va se faire passer pour fou, et il va essayer de découvrir ce qui se passe dans l'asile. Et évidemment, on sait que ça va mal se passer pour lui. On retrouve donc les ambitions et les obsessions de Samuel Fuller, le journalisme, l'idée du déguisement. Dans beaucoup de ses films, quelqu'un se fait passer pour quelqu'un d'autre pour découvrir un milieu. Et ça se termine toujours mal dans les films de Fuller. C'est ça qui est assez fort.
Faut pas le dire.
Et des scènes chocs. Beaucoup de scènes chocs. Et ce que voit pas le personnage de Shock Corridor, obsédé par sa quête, c'est qu'en fait on lui raconte l'histoire, il ne cherche que le coupable, il ne voit pas l'histoire que lui racontent les fous qui en fait sont, d'après Fuller, beaucoup plus clairvoyants que tout le monde. Il voit le miroir d'une Amérique et sa violence, donc la violence du Ku Klux Klan, la violence de la bombe atomique, la violence de l'anticommunisme. Et donc c'est un film sur l'état de l'Amérique dans les années 60.
Donc merci Grégoire, Shock Corridor, ressorti aujourd'hui, on vous recommande chaudement d'y aller évidemment, et puis si possible de voir tous les films de Fuller, hein, dont, spécialement ceux dont tu nous as parlé, si brillamment. Et maintenant on va écouter un petit peu de musique et François Régis va nous expliquer pourquoi, juste après. Alors nous écoutions Magma, un groupe qui peut-être n'évoque pas grand-chose pour vous, moi qui m'évoquait quelque chose
vaguement.
Si,
c'est ceux qui ont inventé leur langue avant que Sigur Rós le fasse.
Ah, merci Grégoire, toi tu connais. Donc Magma, un groupe qui n'est pas tout jeune, et qui signe ici la bande originale d'un film qui s'appelle Tristan et Iseu. François Régis, tu voulais nous évoquer cette musique et ce film.
Voilà, en fait, Tristan et Iseu a été réalisé en 72, et pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, effectivement, en 72, à Paris, on n'écoutait plus Édith Piaf, on écoutait du Magma. Et justement, c'est ce qui s'est un peu passé.
La boucle est bouclée.
Ce film, en fait, c'est quand même un film assez obscur, qu'on n'a pas beaucoup vu, qui a été diffusé au Festival des années pop, et peut-être de façon sporadique à la Cinémathèque. Et je pense que la seule chose dont on connaisse d'Yvan Lagrange, c'est que justement, là, il a utilisé la musique de Magma, enfin, en tout cas, bon. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'un ami d'Yvan Lagrange traînait dans un studio d'enregistrement, il a pris la bande de Magma, il allait voir Yvan Lagrange, il l'a bien aimé, il l'a mis sur son film. Sauf que Magma n'était pas au courant. Et ce qui
un
s'est passé,
classique.
C'est que, oui, en fait, c'était juste une sorte de bœuf. Et le film est quand même sorti, il a été quand même diffusé à Cannes ou à la sélection parallèle, ou je sais plus. Ça n'a pas eu un grand retentissement. Je pense que Philippe Garrel a peut-être eu plus de. Plus de succès que qu'Yvan Lagrange.
En tout cas, l'histoire la plus retenue. Faudrait faire une enquête sur Monsieur Lagrange.
Bah, les quelques critiques qu'il y a de ce film-là, c'est que c'est quand même un film plutôt. Sont des tableaux vivants. Donc il y a Yvan Lagrange qui joue avec sa compagne, donc Tristan Iseu. Lui, il est torse nu. Il a les cheveux longs. Elle est peut-être très belle. Et puis il y a des scènes de combat de chevaliers qui sont habillés certainement par Pierre Cardin ou par un créateur de l'époque.
Oui, moi j'ai vu le film à la Cinémathèque il y a quelques années et effectivement ça ressemble un petit peu, on ressent l'esprit de l'époque, hein, ça ressemble un petit peu aux scènes de La cicatrice intérieure de Philippe Garrel en un peu plus heroic fantasy si on veut.
Garrel version Conan le Barbare.
J'ai du mal à l'imaginer ce film.
C'est terrifiant.
Et alors, est-ce que tu conseilles ce film ou est-ce que c'est un film culte mais un film indispensable?
J'avoue que il m'a pas emballé plus que ça, mais j'étais heureux de l'avoir vu, quoi. C'est quand même une curiosité jouissive.
D'accord, je t'envie beaucoup là. Et enfin, tout ça pour dire que Magma existe toujours et donc c'est un des rares. Enfin, je pense que c'est un des grands groupes de rock français. Il n'y en a pas vraiment d'autres. C'est un mélange de jazz, de musique contemporaine, de Stravinsky, de Coltrane. Et c'est vraiment un bon. Il faut rentrer dedans. Il y a toute une on va dire. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est un groupe, une secte, etc. Mais bon, c'est à cause du Cobayen, parce qu'ils ont à l'époque ils s'étaient habillés en noir. Ils avaient ils n'étaient pas dans l'idéologie. On est gentil, on sourit. Enfin, c'était vraiment Christian Vander. Enfin, c'est le batteur. C'est lui, il est un peu qui est l'âme du groupe. C'est quelqu'un qui ressent la musique un peu comme Coltrane, donc un passionné. Et je pense qu'il a pas mal détonné à l'époque ou même toujours aujourd'hui.
Dans les hommes habillés en noir, dans des groupes, depuis, c'est devenu une espèce de marque de fabrique, donc ça passera plus pour une secte, hein, rassure-toi. Voilà. Donc nous écouterons Magma, effectivement, et nous essayerons de voir ce film très rare, mais on peut toujours essayer. On repasse peut-être un petit morceau ou on continue à l'écouter quelques minutes. Eh bien voilà, c'était quelques minutes résumées en quelques secondes. Et maintenant, donc Marion, tu nous as rejoint. On va parler, tu vas peut-être juste nous évoquer brièvement le festival du cinéma israélien.
Quelques infos en plus sur le 6e festival du film israélien dont Radio Campus est partenaire, ce qui commençait aujourd'hui, 25 janvier, qui durera jusqu'au 31 janvier au cinéma des cinéastes dans le 7e.
17e.
17e, pardon. Mm-hmm. 17e, Métro Clichy, qui sera représenté surtout par Ronit Elkabet. Il y aura des fictions, des documentaires, des cours, de la vidéo, des cours d'école notamment de l'université de Tel Aviv, pas mal d'intervenants, des journées spéciales documentaires dimanche 29 janvier avec l'intervention et débat de Yael Perlov, qui était la fille de David Perlov, célèbre documentariste israélien, et la monteuse qui a fait ses classes auprès de Jacques Lanzmann. Voilà.
Très bien. Bah écoute,
jusqu'au 31 janvier au cinéma des cinéastes, le festival du film israélien.
Merci Marion, et on vous fait gagner des places, on est super sympa. Et donc appelez-nous au 01 49 96 65 45 pour gagner des places et suivez-nous dire les films que vous voulez voir. Donc je remercie toute l'équipe cinéma qui était autour de cette table, je remercie François Régis et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.
Trop tôt là. Elle a de trop tôt là, t'es une année.